RCF.
L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Les personnes touchées par la pauvreté en France sont toujours de plus en plus nombreuses. C'est le constat du rapport 2015 publié cette semaine par le Secours catholique. L'organisation a accompagné l'an dernier plus de 600 000 ménages, parmi eux beaucoup de femmes et d'étrangers. Et si le plein emploi en France n'était pas une utopie, Patrick Valentin, lui, y croit en tout cas. Langevin est à l'origine du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, une idée qui séduit le gouvernement qui devrait l'autoriser prochainement à conduire plusieurs expérimentations dans l'Hexagone. D'emploi, il en est particulièrement question ces jours-ci, c'est la 20e semaine de l'emploi des personnes handicapées. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre d'un Vendéen qui, malgré son handicap, n'a pas hésité à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Dans la pause spirituelle, nous vous proposerons un bilan synthétique de cette année de la miséricorde. Le pape doit clôturer ce jubilé dimanche. Comment les chrétiens ont vécu ce moment? Témoignage à suivre. Enfin, côté sortie, focus à la fin de ce magazine sur le Prestival Info de Château-Gontier. Un rendez-vous centré sur les différentes pratiques du journalisme aujourd'hui. De nombreuses têtes d'affiche comme Élise Lucet sont attendues en Mayenne. Voilà pour ce qui vous attend dans cette hebdo région présentée par la rédaction de RCF en joue en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Le Secours catholique a accompagné l'année dernière en France plus de 600 000 personnes en situation de pauvreté, un chiffre qui augmente plus 2,7% par rapport à 2014. Ces chiffres émanent du rapport 2015 du Secours catholique publié ce jeudi. Les femmes sont surreprésentées dans ces bénéficiaires. La part des étrangers, elle, a continué de progresser. Ils représentent aujourd'hui 36% des personnes accueillies au Secours catholique. Anthony Torzec, bonjour.
Bonjour Bastien et bonjour à tous.
Et quelle est la situation précise dans les Pays de la Loire ?
Eh bien, dans notre région, les équipes du Secours catholique ont rencontré en 2015 31 960 000 ménages. 4 sur 10 étaient déjà connus des bénévoles, ce qui veut dire qu'effectivement, les bénévoles sont sur le terrain à l'année à la rencontre de ces personnes en précarité. Toujours l'année dernière, parmi les ménages accueillis au sein du Secours catholique, moins d'un sur 5 est en situation d'emploi. La part de personnes au chômage sans droit reconnu représente un ménage sur 3. Il faut savoir également que toujours dans notre région, plus de 6 ménages sur 10 ont des problèmes d'impayés lorsqu'ils arrivent au Secours catholique. Et puis vous le disiez Bastien, de plus en plus de migrants dans cette région des Pays de la Loire. C'est un lieu d'accueil pour les étrangers dont la situation est souvent d'ailleurs plus précaire que celle des Français. Dans les accueils du Secours catholique, un tiers des ménages sont de nationalité étrangère avec une importante proportion de personnes déboutées ou sans papier.
Et quelle est la demande justement de ces bénéficiaires ?
Alors paradoxalement, la première demande d'abord, c'est l'écoute. Ils veulent être entendus, ils veulent dire ce qu'ils ressentent au quotidien. Et ensuite viennent les aides et la demande d'aide. Écoutez le témoignage de Marie Fleury, c'est la présidente du Secours catholique de Loire-Atlantique.
La première demande en général, c'est-à-dire pour 67% d'entre eux, les personnes arrivent avec un besoin, une demande d'écoute. On a besoin de rencontrer la personne, de la connaître, peut-être aussi dès le départ avec un sourire, et puis ensuite reconnaître ses capacités, ce qu'elle peut faire, comment elle peut arriver à reprendre pied dans la vie, comment elle peut arriver à se redonner confiance, comment elle peut arriver à se battre.
Voilà. Et ensuite, et seulement ensuite, on peut aider financièrement une personne s'il y a
voilà.
besoin.
Voilà. Alors, il y a quelquefois des urgences, notamment des urgences alimentaires, parce que quelquefois, les bénévoles se rendent compte qu'il n'y a rien, vraiment aucune provision même, enfin c'est incroyable de penser ça, mais c'est vrai, quelquefois les placards sont vides. Donc là, il y a une aide d'urgence.
Et puis il y a des aides aussi pour les factures d'électricité, gaz, de fuel, d'énergie
voilà.
en général.
Voilà, ouais. Alors déjà, il y a aussi le pôle solidarité de l'EDF avec lequel on a une convention, et donc on s'adresse à eux, et en général,
on négocie
un étalement des dettes, etc., ouais. Mais quelquefois, c'est tellement important parce qu'il faut bien se rendre compte que les gens qui viennent vers nous, ils ne sont pas venus tout de suite. Il y a d'abord la honte d'être dans cette situation-là. Et ensuite, une dépression, un désespoir. Puis à un moment donné, elle se dit, ah ben non, il faut que j'y aille. Hein. Je m'enfonce, je m'enterre, il faut que j'y aille.
Marie Fleury, présidente, vice-présidente donc du Secours catholique en Loire-Atlantique. Alors évidemment, Bastien, pour aider ces bénéficiaires, il faut des fonds, il faut des dons au Secours catholique. 30 000 donateurs sur la région des Pays de la Loire. Dimanche prochain, ce sera la journée nationale du Secours catholique, l'occasion eh bien, de vous aussi de faire un don pour l'ensemble de ces bénéficiaires, de ces personnes en grande pauvreté sur cette région des Pays de la Loire.
C'est noté Anthony, merci beaucoup pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, cette semaine, le premier tour des primaires de la droite et du centre a lieu ce week-end. Plus de 10 000 bureaux de vote sont dispatchés un peu partout en France, dont 641 rien qu'en Pays de la Loire. Chaque Français peut participer à cette élection, je vous le rappelle, dès lors qu'il est inscrit sur les listes électorales, qu'il signe une charte indiquant qu'il partage les valeurs de la droite et du centre et qu'il paie une cotisation de 2 euros.
L'Hebdo-Région, initiative.
Alors que les débats sur l'inversement de la courbe du chômage sont au cœur des enjeux des élections présidentielles, un Angevin se bat depuis des mois pour faire émerger ses convictions et faire valoir son utopie réaliste pour tendre vers le plein emploi, Maria Goyer.
Son nom, Patrick Valentin. Son projet, un territoire zéro chômeur de longue durée, une idée qui a séduit l'Assemblée nationale. Les députés ont en effet voté le décret d'expérimentation en juillet dernier. Dans une semaine, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, devrait définitivement acter ce qui serait bien plus qu'un projet, car l'idée est de créer des emplois supplémentaires pour répondre à la demande de travail des chômeurs de longue durée. Décryptage avec ce militant du droit à l'emploi, Patrick Valentin, directeur du fonds de gestion de cette expérimentation.
Il y a des gens qui ne demandent qu'à travailler. Il y a du travail, en veux-tu en voilà, utile et qui n'est pas fait. Et il y a de l'argent. Et cet argent est utilisé pour empêcher les gens sans travail de sombrer dans la misère la plus totale. C'est mal utilisé. Vous avez un très grand nombre d'emplois de présence. Tous ces emplois dont l'absence détruit la société. Par exemple, des gardiens d'immeubles, il y a des milliers et des milliers d'immeubles qui ont besoin de gardiens. Donc voilà, les emplois de présence, c'est une présence active, une présence dynamique, une présence qui fait société. Les surveillants d'innombrables écoles, dans d'innombrables cas, n'ont pas assez mais de ces personnes qui font le lien. On nous parle dans les statistiques de toutes ces raquettes entre enfants et cette violence entre enfants. Mais dans l'école où j'ai eu la chance d'aller, il y avait énormément de surveillants. Et donc, nous avions une vie sociale qui était canalisée. Tous ces emplois ont disparu. Alors, voilà un exemple. Vous avez aussi tous les emplois de l'économie pour qu'elle soit durable et écologique. Et il y a un retard énorme. Et pendant ce temps-là, nous avons plein de gens prêts à travailler. Et nous avons de l'argent pour le financer.
De l'argent au moins pour financer des expérimentations un peu partout à travers l'Hexagone. Ce qui se fera dans les prochains mois, car Patrick Valentin en est persuadé. Les chômeurs français sont loin d'être incompétents.
Quand vous écoutez les personnes qui se présentent, bonjour monsieur, bonjour madame, et vous leur demandez, mais vous, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Trois questions, c'est tout. Une heure et demie. Les personnes mettent une heure et demie à vous répondre. Elles vous racontent tout ce qu'elles savent faire, et c'est énorme. Elles vous racontent ce qu'elles voudraient faire, et c'est avec ça, en les réunissant, qu'on fait une entreprise. Comment? Eh bien, en disant, mais, puisque vous savez faire tout cela, nous allons aller chercher sur le territoire, avec l'accord de tous les gens du territoire, nous allons chercher qu'est-ce qui reste d'utile et que vous pouvez faire. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de travail utile qu'il n'y a de gens disponibles. Il reste la question de l'argent. Et voilà le point où nous en sommes aujourd'hui. Juste avant cet échange, je venais d'apprendre que la ministre va décider, j'espère la semaine prochaine, quels sont les territoires qui vont être habilités à faire cette expérimentation avec moi. Nous avons 42 candidats pour 10 places. Alors, des territoires, exemple territoire.
Département ?
Ah non, ce sont des tout petits territoires. Ce sont des territoires de 5 à 10 000 personnes. Et demain, si la ministre les habilite, eh bien, ils vont ouvrir une entreprise à but d'emploi.
Alors, comprenez, une entreprise polyvalente, capable de réaliser de nombreux services. Mais quand tout cela prendra-t-il réellement forme? Patrick Valentin nous éclaire sur les échéances à suivre après l'aval de la ministre, attendu la semaine prochaine.
Je signerai des contrats avec chacune des entreprises expérimentales. Nous ferons le 5 décembre à Paris, nous devrons constituer l'équipe expérimentale totale, c'est-à-dire les 10 territoires, les 10 représentants des territoires et notre, ma petite équipe parisienne. Et puis ensuite, de janvier à mars, on va échelonner les ouvertures d'entreprises. Normalement, cette première expérimentation devrait permettre de créer 2000 emplois supplémentaires à terme. Et bien sûr, dans le même temps, nous nous occuperons bien sûr de faire que les territoires candidats restent en alerte pour essayer de voir dans quelles conditions on pourrait faire une deuxième expérimentation pour progressivement instaurer une nouvelle manière de concevoir l'emploi comme un droit pour tous dans notre société.
À noter enfin que l'expérimentation se fera sur de très petits territoires de 5 à 10 000 personnes. Aucun candidat dans les Pays de la Loire ne s'est fait connaître.
Merci Marie. Et puis tout le détail de la démarche à retrouver sur le site internet zerochômeurdelonguedurée.org. On passe sans plus tarder à la suite, la rencontre de la semaine où vous allez le voir, il est encore question d'emploi.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Et pour la rencontre de la semaine, direction la Vendée. Bonjour Fanny Brevet.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Avec vous, nous abordons la 20e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Elle s'est ouverte ce lundi.
L'occasion d'informer, de sensibiliser le grand public pour faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur les handicaps et de mettre en relation demandeurs d'emploi en situation de handicap et recruteurs.
Dans le cadre de cette semaine, vous vous êtes entretenu avec Mickaël François. C'est un entrepreneur en situation de handicap.
Après un licenciement pour inaptitude physique en avril 2015, il a repris la boutique Le Cycle des Olonnes au Sable d'Olonne en octobre 2015. Écoutez son témoignage.
C'est pas un handicap visible sur moi, hein. C'est des problèmes au niveau du dos et j'étais carrossier peintre et je ne pouvais plus faire l'activité que j'avais suite à des problèmes de dos. Les postures ne me convenaient plus du tout. Là, je suis toujours debout à hauteur et j'ai des positions beaucoup plus adaptées par rapport à mon handicap, donc ça ne se voit absolument pas.
Quelles ont été les démarches que vous avez suivies ?
Alors, c'est un licenciement pour inaptitude donc qui s'est effectué en avril 2015, mais je savais déjà à l'avance que ça allait aboutir par ce licenciement pour inaptitude physique. Donc en amont, avant d'être licencié, j'avais fait un bilan de compétences, déjà pour voir vers quel domaine je pouvais me retourner pour reprendre une activité. Et par le biais de ce bilan de compétences, j'ai eu l'opportunité aussi de rencontrer l'ancien propriétaire de ce magasin qui partait à la retraite. Et en fait, ça s'est plus fait via cette personne pour la reprise. Et du coup, je me suis servi de mon bilan de compétences pour ficeler un peu tout le processus pour la reprise de cette entreprise.
Et en lien avec son handicap, Mickaël François a pu bénéficier de différents accompagnements, véritable coup de pouce pour se lancer.
Voilà, donc j'ai eu l'accompagnement de BGE Atlantique à La Roche pour tout ce qui est formation et puis constitution du dossier pour voir la viabilité de la reprise de l'entreprise. J'ai eu aussi soutien de la FAMET qui s'occupe aussi des personnes à reconnaissance de handicap pour le travail, ainsi que la GFIP qui m'a aidé aussi via une subvention pour des reprises et créations d'entreprises pour les personnes à reconnaissance de handicap.
Un an après, quel regard portez-vous sur ce parcours ?
Moi, je suis tout à fait satisfait du parcours que j'ai fait. L'entreprise est viable, je suis toujours en activité et il n'y a pas de raison que cela s'arrête incessamment sous peu. C'est parti pour un bon moment.
Donc vous êtes épanoui aujourd'hui ?
Tout à fait, je ne regrette absolument pas. Malgré une grosse déception par rapport au métier que je faisais avant, hein, j'ai fait un très long parcours au niveau études et donc j'ai dû arrêter, mais bon, aucun regret d'avoir changé quand même, je suis tout à fait satisfait.
Comme Mickaël François, environ 200 personnes en situation de handicap sont accompagnées chaque année dans la région pour la création de leur entreprise.
Et merci Fanny. Puis parce que l'on parle de handicap, une autre information en bref. La journée nationale de la trisomie a lieu ce dimanche. À cette occasion, l'association Trisomie 21 Sarthe organise un bal disco dans le quartier des Sablons. Le but est de montrer que ces enfants malades sont comme les autres et qu'ils peuvent être pris en charge dans un environnement tout à fait normal.
L'Hebdo-Région. Pause spirituelle.
Et dans la pause spirituelle cette semaine, nous prenons la direction du Mans Aubery Métro. Bonjour.
Bonjour Bastien.
Et ce dimanche, le pape va refermer l'année de la miséricorde.
Et oui, une messe de clôture aura lieu à 10h à Rome. Elle sera célébrée par le pape François. Une année voulue par le Saint-Père qui a été marquée par beaucoup d'initiatives dans nos diocèses. En Sarthe, par exemple, les communautés se sont mobilisées pour vivre ce temps de réflexion. Claude Cosnard est diacre permanent en mission auprès des personnes en précarité. Il nous confie son témoignage sur cette année particulière.
La miséricorde, on en a beaucoup parlé, mais surtout, on a fait beaucoup de démarches où les gens les plus pauvres se sont retrouvés en profondeur et d'une façon extrêmement simple. Et je crois que si j'avais à décrire l'année de la miséricorde, je la décrirais comme ça. La simplicité, mais qui change le cœur. La miséricorde, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est vraiment le cadeau qui nous est fait, que ça ouvre des chemins. Et comme en ce moment, on est à la clôture de cette année jubilaire, pour moi, la clôture, ce n'est pas une fermeture, au contraire, c'est une ouverture. C'est la porte qui s'ouvre vers la cité pour que des personnes disent « Mais vous qui êtes dans le fond des ténèbres, là, peut-être qui vous cachez pour ne pas qu'on vous voie, eh bien, on va aller vers vous parce que le Seigneur, en fait, il t'attend, il compte sur toi et il a même besoin de toi. Tout le monde a quelque chose à donner. »
Et l'enseignement de la miséricorde Aubery passe également par la catéchèse.
Ah oui, c'est d'ailleurs pour souligner le rôle essentiel que le pape François a invité de nombreux services diocésains à un pèlerinage au Vatican. C'était à la fin du mois de septembre. Une délégation sartoise était présente, place Saint-Pierre, et Bérangère Melot en faisait partie.
Quand on a une invitation à Rome du pape François, on la refuse pas déjà. Donc voilà pourquoi on a accepté. Et puis c'était une façon aussi d'aller retrouver des personnes qui vivent des réalités différentes, parce que la catéchèse ici en Sarthe et en France, pas la même que en Afrique, dans les pays d'Amérique du Sud ou en Chine. Et c'était très riche de pouvoir rencontrer des personnes avec des expériences très différentes. Et on a eu de très beaux témoignages de catéchistes du monde entier.
Et le temps fort de cette année de la miséricorde, ça restera sans aucun doute tout de même les Journées mondiales de la jeunesse.
Et ce discours dans lequel le pape exhorte les jeunes à sortir de leur canapé restera gravé dans les mémoires. Audrey Coupeau faisait partie de la délégation du pôle jeune du diocèse du Mans qui était à Cracovie ce jour-là.
Alors moi, ce qui m'a surtout marqué, je crois que c'est pendant la messe finale, donc on est 2 millions, 2,5 millions, et au moment où le pape consacre, on est tous à genoux, enfin quasiment, et là, je me dis, on fait tous la même chose dans le monde entier, on est tous là pour une seule personne, pour Jésus, et je crois que c'est une des plus grandes expériences de ma vie, et j'aurais été vraiment très déçue de pas pouvoir la vivre. Ça m'a permis de mieux appréhender le sujet de la miséricorde, qui était pas forcément quelque chose de très connu pour moi, et donc de se dire que oui, je fais des fautes, oui, je fais des erreurs, mais à côté de ça, Dieu sera toujours là à côté de moi pour me pardonner et être un compagnon fidèle. Et je crois que ça, c'est quelque chose, quand on y a goûté, c'est très enrichissant, que ce soit personnellement, spirituellement ou même professionnellement.
Et tout au long de l'année, le Pôle Jeune a organisé plusieurs activités autour du thème de la miséricorde. Des groupes sont allés dans des douaniers de campagne, dans des maisons de retraite pour venir en aide aux personnes isolées, ou encore annoncer la bonne nouvelle auprès des passants dans les rues du Mans.
Et j'imagine par contre, Aubery, que tout le monde n'a pas pu passer les portes saintes des diocèses.
Effectivement, c'est le cas des prisonniers par exemple. Alors pour leur permettre à eux aussi de vivre ce jubilé, Monseigneur Le Saut, l'évêque du Mans, s'est déplacé en début de semaine pour une célébration autour de la miséricorde à laquelle a assisté Gérard Chenet, c'est l'un des aumôniers de la prison des Croisettes près du Mans.
On voulait quand même marquer la fin de ce jubilé de la miséricorde, et comme c'est toujours difficile de faire sortir des personnes détenues, c'est possible, hein, mais enfin ça demande à être préparé longtemps à l'avance, et que donc nous ne pouvions pas les amener à la cathédrale pour franchir la porte de la cathédrale, nous avons demandé à notre évêque de venir pour une célébration autour de la miséricorde. Alors ça s'est passé aux Croisettes, dans la salle qui nous sert de salle de culte habituellement le dimanche, et je dois dire qu'il y avait une vingtaine de personnes détenues qui étaient là. C'est toujours un moment important pour les personnes détenues, d'une part parce qu'elles sont touchées que l'évêque vienne leur rendre visite, hein, qu'il représente plus que lui-même aussi, hein, ce qu'a très bien dit d'ailleurs le Père Le Saut. Hein, lui, il est comme tous les êtres humains, hein, il a aussi besoin de la miséricorde du Seigneur.
Et pour Monseigneur Le Sault, la miséricorde doit se poursuivre au-delà du jubilé. Il a donc décidé de confier le diocèse du Mans au cœur du Christ lors d'une célébration qui aura lieu ce samedi à 18h en la cathédrale Saint-Julien.
Eh bien merci Aubery, le rendez-vous est pris. Allez, il nous reste 5 minutes, comme chaque semaine on termine ce magazine avec de la culture.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Vous vous souvenez peut-être du festival du Scoop qui s'est tenu à Angers pendant plus de 25 ans. Un festival du journalisme dont la dernière édition s'est déroulée en 2013. Enfin, la dernière édition à Angers, puisqu'après un projet de transfert avorté à Lille, c'est la petite ville de Château-Gontier en Mayenne qui a décidé de reprendre le flambeau en organisant le Prestival Info. Et la greffe a l'air de très bien prendre, Samuel Pecot.
Oui, la greffe prend, c'est exactement le cas. Alors j'avoue que moi-même, je voyais mal comment Château-Gontier pouvait relever ce défi. Eh bien, c'est la quatrième édition du Prestival Info qui se tient tout ce mois de novembre. Et je crois qu'effectivement, on peut le dire, le festival n'a plus rien à envier à l'ancien festival du Scoop. Des grands noms de la presse française n'hésitent plus à venir dans le sud Mayenne pour participer à ce festival. Et le public aussi répond présent. Cette année, beaucoup d'événements proposés affichent complet. Alors, ce pari un peu fou en 2013 que de faire atterrir à Château-Gontier ce festival du journalisme, on le doit à Jean-Marie Mulon, directeur de la communication de la ville et du pays de Château-Gontier, qui est lui-même un ancien journaliste. Et ce qu'il souhaite avec ce festival, c'est que les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs puissent rencontrer ceux qui écrivent les articles ou réalisent les émissions. Pour lui, c'est indispensable que les deux univers se côtoient pour éviter ce sentiment de défiance que certains expriment aujourd'hui vis-à-vis des médias et des journalistes. Alors je vous propose d'écouter un échange que nous avons eu avec lui ces derniers jours.
J'ai envie de braquer les lumières sur un métier qui fonctionne encore noblement. Bien sûr, comme dans chaque corporation, on pourrait trouver des moutons noirs, mais il faut surtout pas globaliser. Ce sont des gens qui sont nos yeux là où nous n'irions pas, qui nous rapportent de manière risquée parfois des images, des témoignages. Mais il n'y a pas besoin d'être journaliste en presse internationale pour faire noblement son métier. Vous le savez comme moi, des gens sur le terrain, ici en Mayenne, dans les départements des Pays de la Loire, le font avec la même pugnacité, la même envie, la même honnêteté. Je ne crois absolument pas en l'objectivité, mais je crois beaucoup en l'honnêteté et il reste encore des gens honnêtes dans ce métier.
Et vous parlez du risque d'aller chercher l'information. Chaque année, vous tenez à remettre le prix Gilles Jacquier. Ça, c'est vraiment un moment fort aussi du festival.
Oui, parce que Gilles, qui a été tué à Homs en Syrie, nous manque beaucoup. Il était très fidèle à nos actions. Il nous a beaucoup encouragés. Il nous a ouvert lui aussi des portes essentielles. Et donc ce prix, pour les journalistes, ça compte parce que Gilles Jacquier était quelqu'un de respecté. Et donc comment oublier un tel personnage? Malheureusement, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont plus de ce monde, qui ont payé de leur vie le prix du reportage. Je pense à Camille Lepage, notre consoeur angevine, sans tomber dans le larmoyant, mais nous essayons d'avoir cette pensée qui nous rappelle que ce métier est dangereux.
Dangereux aussi ici en France, on se souvient de Charlie Hebdo. Vous aviez d'ailleurs reçu l'année dernière Patrick Pelousse ici à Château-Gontier.
Oui, c'était un témoignage très fort que celui du docteur Patrick Pelousse, que l'on a connu un temps comme urgentiste et fer de lance du mouvement des urgentistes. Mais effectivement, il s'exprimait ici l'an dernier au nom de Charlie Hebdo, puisqu'il est arrivé dans les premiers, vous le savez, sur cette terrible tuerie de la rue Nicolas Appert à Paris. Il s'était exprimé pendant presque un quart d'heure sur ce qu'il avait vu, la manière dont qu'il l'avait vécu, la manière dont il fallait vivre et survivre. Donc ça a été très fort et il nous confiait il y a quelques jours encore en nous encourageant pour cette nouvelle édition de continuer dans cette voie avec des vrais temps de parole où on laisse un peu de temps, où on tente de laisser plus que la minute ou les 40 secondes usuelles.
Laisser s'exprimer nos invités, c'est ce que l'on essaie de faire aussi sur nos radios chrétiennes. Et en parlant d'invités, Samuel, quels sont ceux de cette quatrième édition?
Alors, je ne vais pas détailler tout le programme, très large depuis le début novembre. Beaucoup de rencontres, notamment sur le thème du journalisme au féminin. En revanche, vendredi prochain, le 25 novembre, il y a une grande soirée sur le journalisme d'investigation. Et les plus grands journalistes français, dont c'est la spécialité, seront présents à Château-Gontier pour l'occasion.
Oui, nous avons essayé d'imaginer un plateau qui sera ouvert d'ailleurs par Virna Sacchi, qui maintenant est à la tête de Pièce à Conviction. Puis effectivement, l'expertise d'Élise Lucet, la connaissance de Bernard de la Villardière, Luc Herman, le cofondateur de Première Ligne qui produit Cache Investigation, Jean-Pierre Canet, rédacteur en chef d'Envoyé Spécial, et quelques autres invités qui ont envie d'apporter ce témoignage sur le journalisme en majuscule. Et c'est vrai que cette soirée que nous avons appelée Journaliste journalisme d'investigation une nécessité citoyenne, sans point d'interrogation, puisque ça nous en avons la conviction, va nous permettre d'échanger, de voir de nombreux extraits, et on est fiers que ça se passe en Mayenne.
D'autant plus fiers que Jean-Marie Mulot n'oublie pas que lors des premières éditions, il aurait pu accueillir plus de spectateurs. C'est donc une preuve, n'en déplaise à certains, que le journalisme attire encore. Et d'ailleurs, si vous regrettez de ne pouvoir participer à cette soirée, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site du Prestival Info. Au-delà du festival en novembre, de nombreuses rencontres sont organisées tout au long de l'année, et d'ailleurs certaines dans d'autres départements des Pays de la Loire. Et
merci Samuel pour toutes ces précisions, on vous retrouve dès la semaine prochaine. Pour la deuxième année consécutive, le Puy du Fou se voit décerner le Sea Awards de la meilleure création du monde pour son spectacle Le Dernier Panache, nouveauté 2016, qui propose une mise en scène à 360 degrés dans une salle révolutionnaire de 7 500 m². Les spectateurs installés dans une tribune rotative sont invités à suivre la vie de Charette lors des guerres de Vendée. Le prix qui sera remis officiellement aux équipes le 22 avril 2017 à Los Angeles est l'équivalent des Oscars au cinéma. Et voilà, c'est la fin de cette hebdo région, votre magazine d'actualité en région réalisé par vos 5 radios chrétiennes des Pays de la Loire. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci encore pour votre fidélité.